Bonjour. On espère que vous avez passé une bonne semaine. On veut saluer ceux qui nous écoutent par Internet et évidemment, on veut saluer aussi l'Église d'Orléans qui nous écoute. On veut offrir nos sympathies à la famille. Je pense à Linda et sa famille, Mme Lefebvre qui est décédée. Il y avait le service hier matin. Donc, on leur offre nos sympathies. En même temps, on veut certainement prier pour ceux qui sont malades, certaines personnes dans l'Église qui luttent avec la maladie, pensant à des cancers et tout ça. On pense aussi à Julie Robitaille qui est probablement dans ses dernières journées. Alors, on veut certainement prier pour la famille Robitaille. Commençons donc par la prière, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta présence parmi nous. Merci pour cette belle équipe de louanges qui, vraiment ce matin, nous a dirigés dans ce moment où nous avons pu t'élever, élever ton saint nom. Et nous disons Amen. Amen à tous ces beaux chants et pour cette belle équipe, ces belles ressources, ces dons que tu as donnés à ton Église. Merci pour cette Église et tous les ministères qui se passent ici. On pense ce matin aux moniteurs et monitrices qui s'investissent dans la vie de nos enfants. Alors, Seigneur, c'est toi, ça, c'est ton don. C'est les dons que tu donnes à ton Église et nous voulons te remercier pour ça. Merci pour tout ce que tu fais, pour ta présence parmi nous, pour ta grâce. Eh bien, nous te prions ce matin que tu puisses ouvrir nos cœurs, disposer nos cœurs par ton Esprit Saint à entendre ce message qui vient de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. C'est un monsieur qui arrive de travailler, il arrive chez eux. Il passe par la cour et il voit dans la cour ses enfants qui sont en train de jouer et qui sont en pyjama, alors que c'est la fin de l'après-midi, les enfants sont encore en pyjama, mais ils sont en train de jouer dans la boue. Alors lui, il regarde, puis il est assez étonné. Et là, il remarque qu'il y a des boîtes qui traînent sur le terrain dans la cour, des boîtes de repas congelés, il y a des cannes de jus qui traînent. Il ne comprend pas, alors il rentre dans la maison, et c'est encore pire dans la maison. Il regarde la cuisine, la vaisselle n'est pas faite, la nourriture pour le chien est à terre, le bol est renversé, il y a même la vitre à terre, comme s'il y avait vraiment comme une vitre qui avait brisé. Puis ça traîne partout, la vitre, alors il ne comprend pas, il rentre dans le salon, dans la salle familiale, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit du linge qui traîne partout, il y a du sable partout, il y a du sable sur le comptoir de la cuisine, sur la table de cuisine, sur les meubles. Il y a du linge, des jouets un peu éparpillés sur le sol. Il y a même une lampe qui traîne, qui a tombé à terre et qui traîne dans la salle familiale. Alors, lui, il ne comprend pas, puis il commence à paniquer, il commence à avoir peur. Alors, il part à courir, monte à l'étage parce qu'il veut aller voir si sa femme, tout est beau. Alors, il monte, il s'en va voir dans la chambre où sa femme se trouve. Et quand il arrive en chambre, sa femme est assise sur le lit, assise en pyjama, et elle est en train de lire. Sa femme le regarde, il fait un sourire et lui dit « Bonjour, ça va bien, comment était ta journée? » Mais il dit « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas! » Alors sa femme le regarde et lui dit « Bien, à chaque jour, quand tu viens à la maison de travailler, tu me demandes ce que j'ai fait dans la journée. Et quand je te dis je me suis occupé de la maison et des enfants, tu dis « C'est tout! » Bien, aujourd'hui, j'ai rien fait. Je pense qu'il a pris sa leçon, hein? On n'a pas besoin de faire un doctorat en psychologie pour comprendre c'est quoi le problème avec ce couple-là. C'est quoi le problème? Cette femme-là ne se sentait pas appréciée. Et avec raison. Cette femme-là ne se sentait pas appréciée pour ce qu'elle faisait. Et s'il y a une chose qui fait mal et qui est décourageante, c'est le manque d'appréciation. Moi, cette semaine, je suis allé pour mon pied à l'hôpital à Gatineau. Il y a un département de réadaptation. J'y vais deux fois par semaine pour mon pied. Alors là, la physio qui est là, qui me travaille le pied, me fait faire des exercices et tout ça. Et tu as des moments intimes. Elle joue après les pieds, là. Tu sais, tu peux pas être plus intime que ça. Alors, elle est là, à côté de moi, puis on est comme... C'est tout. Il y a plusieurs lits, là. Il y a, on a mis presque 7 lits. Mais quand même, tu sais, là, tu es là, puis elle te manie le pied, tout ça. Puis à un moment donné, elle va mettre un peu de pression. Alors, elle va commencer à jaser, tu sais, tout ça. Elle me racontait cette semaine comment elle avait eu un passé assez difficile. Elle a fait plusieurs sacrifices pour son mari. Même un jour, elle est allée poursuivre son mari. Son mari était dans l'armée, alors elle a suivi son mari pour aller à Terre-Neuve pendant quelques années. Et puis, ils ont eu un enfant. Son mari partait pour des périodes de 6 mois à la fois, à quelques reprises. C'est arrivé à quelques reprises, ça, ces départs-là. Et elle a vraiment mis de côté sa formation, sa carrière et tout ça pour aller suivre et encourager, soutenir son mari vraiment là-bas. Et c'était pas évident. Elle a fait plusieurs sacrifices. Et ils ont eu un enfant ensemble. Et à la fin, lorsque c'était le temps pour revenir dans la région ici, son mari lui a dit, « Sais-tu, je pense que je ne suis pas vraiment fait pour avoir des enfants. » Et il l'a abandonné là. Après avoir fait plusieurs sacrifices, même mis de côté sa carrière, voilà que tout d'un coup, du jour au lendemain, elle se retrouve monoparentale, seule, doit repartir à zéro, retourner à l'école, essayer de se retrouver une formation, tout ça. Et une des choses qui l'a vraiment blessée, c'était évident, il y avait une douleur qui était là. Et c'était cette idée-là d'abandon, se sentir trahi. Et après avoir fait tant de sacrifices, de ne pas se sentir apprécié. C'est ça qui fait mal. C'est décourageant de ne pas se sentir apprécié. On vit dans un monde qui peut être assez ingrat par moments, assez difficile, assez critique. Et ça peut arriver qu'on se retrouve dans un contexte où il n'y a personne autour de nous, à notre travail, qui apprécie ce qu'on fait. Les nombreuses heures qu'on peut mettre, les sacrifices qu'on peut faire. Ça peut être ta situation en ce moment. Peut-être même c'est dans ton ménage, dans ton foyer, où tu ne te sens pas apprécié, comme cette femme-là qu'on a dit ce matin, au début. Il y a des gens qui se sentent comme ça. On souffre par un manque d'appréciation, de reconnaissance et de gratitude. Des gens qui vont se dévouer pour des autres et ne reçoivent jamais ce témoignage de dire, « Sais-tu, j'apprécie vraiment ce que tu fais. » Des gens qui passent des années, sans recevoir de leur entourage aucune marque, aucun témoignage d'appréciation. Moi, j'aimerais qu'on s'arrête ce matin sur cette question-là, l'appréciation. On a besoin de regarder ce sujet-là parce que notre monde peut être difficile parfois. Ça peut être tough. Moi, je ne sais pas comment tu te sens en ce moment, quel est ton contexte, ce que tu vis. Certainement, je te souhaite d'être entouré de personnes autour de toi qui témoignent, qui te donnent des marques d'affection et d'appréciation, qui te disent comment ils apprécient tout ce que tu fais, les nombreux sacrifices que tu fais. J'espère et je te souhaite d'être entouré dans un milieu de travail où les gens, ton travail, te témoignent de temps en temps. Juste un petit clin d'œil, dire, sais-tu, chapeau, c'est bon ça. Mais peut-être que non. Et qu'est-ce qui arrive quand on n'a pas cette appréciation-là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait lorsque tu te sens isolé et que tu ne reçois jamais ces témoignages d'appréciation-là? Eh bien, j'aimerais vous inviter à tourner dans un passage ce matin qui va nous faire du bien. Et c'est un rappel qu'on a besoin de se faire de temps en temps. Alors, moi, je vous invite à tourner dans la lettre aux Éphésiens. Et on va lire un passage dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1, si vous voulez bien. Éphésiens, chapitre 1. Et on va commencer la lecture cette semaine au verset 15. Alors, Éphésiens, chapitre 1, verset 15. Voici ce que dit l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit. Alors, voici ce que dit la parole de Dieu. « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. » Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux siens, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Ce passage-là termine en parlant de Jésus-Christ, rendu le chef suprême de l'Église et Et il y a une section là qu'on veut garder pour plus tard dans notre série qu'on a commencé. On va regarder ça dans quelques semaines, parce que c'est particulier ce que Paul est en train de dire ici à l'endroit de Jésus-Christ, comment il a été élevé, qui est au-dessus de toute domination, toute autorité. On va garder ça lorsqu'on nous serons rendus dans le chapitre 6, qui va parler du combat spirituel. Et il y a une raison pour ça, parce que c'est donné particulièrement la lettre aux Éphésiens, qui vivait justement la ville des particularités, et ça s'est mis en contraste avec tout ce qui se passait dans cette ville. Donc, on va garder ça pour plus tard, pour donner assez d'informations pour comprendre ici ce dont il est question. Mais on veut s'arrêter sur une particularité de ce passage-là ce matin. C'est de montrer une chose, de se rappeler une chose, que Jésus vous apprécie. Savez-vous ça? S'il n'y a personne d'autre autour de vous qui vous témoigne son appréciation, rappelons-nous d'une chose, c'est que Jésus, lui, vous apprécie. Paul commence en nous disant, il va commencer ce passage-là en nous rappelant, Jésus vous apprécie. Paul commence sa lettre en montrant l'inverse, l'autre côté de la médaille, comment il apprécie ce que Dieu a fait. D'ailleurs, on l'a vu la semaine dernière, l'apôtre Paul commence une section du verset 3 jusqu'au verset 14, cette longue portion-là, où il remercie Dieu, il bénit Dieu, il dit « Je bénis Dieu pour toutes les bénédictions spirituelles que nous avons reçues. » En d'autres mots, « Je bénis Dieu parce qu'il nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles. » Et là, il fait une liste de 8 bénédictions que nous avons reçues. D'ailleurs, on a eu la liste qu'on a regardée ensemble la dernière fois qu'on a regardé ça. Il dit, nous avons la bénédiction d'avoir eu Dieu lui-même. Dieu s'est donné à nous, la personne de Dieu. Ça, c'est le plus beau don qu'on pouvait recevoir. C'est Dieu lui-même, la personne de Dieu. Alors, nous avons la bénédiction d'avoir Dieu lui-même. On a la bénédiction de la sainteté. On a la bénédiction de la prédestination, l'adoption, la rédemption, le pardon, la grâce et le Saint-Esprit. Nous avons été choyés. Nous avons été bénis, nous sommes riches en Jésus-Christ. Lorsque tu viens à Jésus-Christ, voilà les bénédictions que nous avons, entre autres, parce qu'ailleurs, il y en a d'autres. Dans quelques semaines, lorsqu'on va revenir sur le sujet, je vais mettre un encart dans le bulletin, vous allez voir la liste d'un monsieur qui a écrit un blog, qui fait la liste de tout ce que nous avons en Jésus-Christ. Est-ce que nous ne l'avons pas, si nous n'avons pas Jésus-Christ? Et vous allez avoir cette liste-là, vraiment une belle liste que j'ai vue. Mais voici ce que nous avons en Jésus-Christ dans la lettre aux Éphésiens, ce qui est souligné ici dans ce passage-là, juste dans les versets entre versets 3 et 14. Nous avons été bénis de plein de bénédictions spirituelles. Alors, voici ce que nous avons reçu, et nous apprécions Dieu pour toutes ces bénédictions. Je bénis Dieu, dit Paul, pour toutes les bénédictions qu'il nous a données. Maintenant, il va de l'autre côté, puis il dit, je veux que vous sachiez maintenant que Jésus vous apprécie. Alors, nous apprécions Dieu pour tout ce qu'il a fait, mais en même temps, Dieu nous apprécie. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque Paul parle, il dit « Moi, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous », il ne faut pas oublier que c'est le Saint-Esprit qui donne ces mots-là. Dieu parle à travers Paul, et Dieu est en train de nous dire « Hey, j'apprécie, je t'apprécie ». Verset 15, il dit, c'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, en d'autres mots, vous aimez Jésus et vous aimez son Église, moi je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous. Je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Et parce que nous croyons à l'inspiration verbale et plénière de la parole de Dieu, nous savons que c'est Dieu qui est en train de communiquer cela à ses enfants, aux disciples, par la plume de Paul. Cette parole de reconnaissance vient donc de Dieu. Dieu qui inspire Paul à dire, « Hey, je vous apprécie. Je vous apprécie. » Vous et moi, on a besoin de se laisser remplir de cette parole-là dans notre cœur. On a besoin de l'accepter, de le prendre, cette parole-là. Cette parole de Dieu, que Dieu nous apprécie. Alors, on a commencé notre série sur notre nouvelle identité que nous avons maintenant, que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Maintenant, que nous sommes en Jésus-Christ. Et ce que nous réalisons, c'est qu'en Jésus, nous sommes saints. Voilà ce que nous sommes. verset 1, première partie de la lettre au début, Dieu dit à tous les saints, il appelle les enfants de Dieu les saints. Voilà ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes saints. Deuxièmement, nous avons vu la dernière fois que nous sommes bénis. Je suis béni maintenant que je suis en Jésus-Christ. Mais là, ce matin, on veut regarder cet autre passage où il dit, où il est dit, je suis apprécié. Je suis apprécié. Savoir que Dieu nous apprécie va avoir tout un impact sur nous autres. Et on a besoin de se le répéter, bien-aimé. On a besoin de se le... C'est rafraîchissant de se le répéter. Dieu apprécie notre obéissance, notre service, notre générosité. Ne pas se sentir apprécié va nous plonger parfois dans le découragement. Mais de savoir que le Seigneur nous apprécie, que lui nous apprécie, qu'il apprécie la fidélité de son peuple, ça va influencer notre attitude. Ça a un impact sur nous autres. Ça va avoir des incidences sur notre façon de voir le service, de voir notre vie, notre attitude. Maintenant, tant mieux si on reçoit de l'appréciation autour de nous autres. Absolument. Tant mieux. Super. Mais, laissez-moi vous faire une déclaration ici. L'appréciation qui aura le plus grand impact, qui va venir influencer même notre cœur, est celle qui vient du Seigneur Jésus lui-même. Maintenant, c'est toute une déclaration, ça. Et peut-être que tu en doutes. Bien, laisse-moi te donner la raison pourquoi je crois ça. Veux-tu savoir pourquoi je crois ça? C'est que Dieu voit tout. Dieu voit tout. Il est, ce qu'on appelle dans la Bible, c'est une doctrine, il est omniscient. Dieu sait tout. Il y a personne autour de toi qui sait à 100% tout ce que tu penses et ce que tu fais, puis connaît tes motifs les plus profonds dans ton cœur. Tu le sais. Tu le sais. Je ne sais pas si tu te chicanes des fois, si vous êtes en couple, puis ça arrive de vous chicaner. Mais là, tu te chicanes, tu sais comment c'est que c'est. Tu commences à te chicaner, puis ça, puis tu dis quelque chose, puis là, c'est parti, là, c'est trop vite, là, ça vient de sortir, puis l'autre personne dit « Ah ben! » Puis là, dans ta tête, tu dis « Mais c'est pas ça que je voulais vraiment dire, puis non, mais je ne crois pas vraiment, tu sais. » Puis là, c'est parti, là, puis là, c'est, ça commence. « Non, mais c'était pas tout à fait ça! » Mais comment t'arranges ça? Il est trop tard, c'est parti, ça se promène, là, ça, c'est dans... Puis là, tu veux te défendre, puis... Hey! Juste Dieu sait tout. Il sait tout ce que tu penses, tout ce que tu fais. Maintenant, quand on parle de l'omniscience de Dieu, habituellement, on va avoir tendance à en parler négativement. Pas vrai? Tu sais, c'est à peu près comme une caméra de surveillance qui est là 24 heures sur 24, qui sait toutes tes pensées, tous tes péchés, tout le mal. En d'autres mots, Dieu voit tout le mal. C'est vrai? C'est vrai ça, c'est dans la Bible. C'est tout à fait vrai. Dieu voit tout. Regarde, ça le dit dans le psaume 139, c'est exactement ce que ça dit. Ça dit... Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voix te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue. Que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Et verset 6 dit, une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Dieu voit tout. Oui, Dieu voit tout le mal. Il sait exactement ce qu'on fait et ce qu'on pense. Dieu voit tout le mal. Mais deuxièmement, l'omniscience de Dieu lui permet aussi de voir tous tes découragements. Même lorsque tu es seul et personne ne le sait. Dieu voit tes découragements. L'autre jour, j'étais en train de lire, j'étais rendu dans une lecture dans Zacharie, puis c'est le genre de passage que tu lis, puis ça a l'air comme étrange. Tu lis ça, puis tu dis, mon ami, il se passe quelque chose ici. Là. Puis là, je suis décidé, je dis, tiens, je vais arrêter, puis je vais aller voir un peu plus loin. Je commencé à regarder ça, j'ai sorti des bons commentaires, voir ce qui se passait pour être comprendre. Puis là, d'un coup, là, j'ai, wow! C'est le genre de passage que tu lis, puis t'es là. Puis d'un coup, là, wow! Là, j'ai saisi ce qui se passait. Vois-tu, c'est dans Zacharie. Zacharie, voici ce qui se passe. Zacharie, se retrouve à peu près 20 ans après le retour de l'exil. Ça fait 70 ans, les Juifs se sont éloignés de Dieu, ils ont commis de l'idolâtrie, Dieu a envoyé prophète après prophète pour les exhorter à revenir à Dieu, mais le peuple voulait rien savoir, même en dépit du fait que Dieu avait fait tellement de bien à son peuple, ils avaient pris soin, ils avaient nourri, ils avaient protégé contre les ennemis, tout ça, pendant des années. Pourtant, son peuple s'est retourné le dos, s'est éloigné, il ne voulait plus rien savoir de Dieu. Ils sont tombés dans l'idolâtrie, tout ça. Ils n'écoutaient pas les prophètes. Alors Dieu, à un moment donné, les aimait trop pour les laisser faire. Alors, il a envoyé l'épreuve. Et là, le peuple, tout Israël, Jérusalem a été détruit, le temple a été détruit, ils ont ramené à 1000 kilomètres plus loin, à Babylone, pendant plus de 70 ans, sont retrouvés là, et loin du temple. Maintenant, loin de la maison de Dieu. Dieu avait promis dans Jérémie qu'il allait les ramener à Jérusalem, qu'il allait rebâtir le temple, et qu'il était pour connaître, les gens étaient pour connaître des années de gloire. Mais voilà que ça fait 20 ans qu'ils sont là et ils ont commencé à bâtir les fondements du temple et il y avait tellement d'opposition et tout ça et les travaux ont cessé. Alors tu te retrouves dans un milieu où c'est des débris, ça traîne, le temple où tu veux aller adorer Dieu est tout défait, brisé. Et là, les gens sont découragés puis ils se disent, bon sang, on ne connaîtra pas. Où sont ces années de gloire et de victoire qu'on était supposé connaître qui avaient été prophétisées à travers le prophète Jérémie que Dieu avait donné, avait promis? Et en d'autres mots, on avait là comme si tout est en débris, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de fruits, ça ne bouge pas, et tout est là, et les gens sont dans le découragement. Alors, ce que Dieu va faire, il va appeler Zacharie, le prophète, puis il va donner une vision à Zacharie. Et dans la vision a pour but de rappeler à son peuple, non, je sais exactement ce qui se passe, je suis au contrôle, puis je sais, mon plan est en train de s'exécuter, puis tu vas connaître des années de gloire, ça va aller, tu vas voir. Et là, Dieu promet que le Messie, le roi, s'en vient. C'est une prophétie du Messie, qui est Jésus. Puis à un moment donné, là, il y a une image, une vision étrange, mon ami, puis laissez-moi vous la lire. Là, il dit, ça c'est Zacharie qui voit une vision, puis il dit, je regardais pendant la nuit. Alors, tu sais, la nuit, en Israël, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de 50, il n'y a pas de phare sur l'autoroute, tu ne vois absolument rien. La nuit, tu vois, c'est noir, là, tu ne vois rien. Et je regardais pendant la nuit, et voici, un homme était monté sur un cheval roux. Et il se tenait parmi des myrtes, dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Juste avant de continuer la lecture, là, juste vous expliquer ce qui se passe. Cette vision-là a été familière pour les Juifs, pour la simple raison que le roi de Perse faisait ça de temps en temps. Ils envoyaient ses commandos, ses unités spéciales opérationnelles, aller de nuit en cachette pour aller voir ce qui se passait sur le terrain, pour voir si tout était calme sur la terre. Et après ça, l'élite opérationnelle revenait dire au roi, oui, voici ce qui se passe dans le pays, etc. Et c'était comme ça que le roi pouvait être informé sur ce qui se passait, sur la situation du pays. Dieu va prendre cette vision qui est familière, mais en même temps, se rappelle comment Dieu est omniscient, puis c'est tout. Mais ici, ce sont des anges. Et il dit, je regardais pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval roux, et se tenait parmi des myrtes, dans un lieu ombragé, il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, qui sont ces chevaux? Mon Seigneur. Maintenant, Dieu envoie un ange pour expliquer à Zacharie. En d'autres mots, il ne fait pas juste lui donner une vision, il va lui expliquer ce qui se passe. Il l'accompagne pendant les nombreuses visions qu'il va avoir à travers la lettre, le livre de Zacharie. Mais dans cette vision-ci, l'ange va lui expliquer. Il demande, Zacharie, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui me parlait me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole. Donc là, c'est quelqu'un qui est sur le cheval qui répond. Puis il dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel, il y en a qui pensent que c'est Jésus, qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent, nous avons parcouru la terre, et la voici, la terre est en repos et tranquille, qui est une mauvaise chose. En d'autres mots, tu vis dans le péché, etc., puis tu laisses les choses aller tranquille. Ce n'était pas une bonne chose. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, l'Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda? En d'autres mots, il communique le cœur des gens qui étaient découragés. Elle dit, jusqu'à quand? Tu vas laisser faire ça? Contre lesquels tu t'es irrité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui me parlait. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. ma maison va être bâtie. Puis là, il donne des paroles de consolation dans le passage. Voyez-vous, ce que Dieu est en train de dire, c'est que je suis omniscient, je suis là, je suis présent parmi vous, et alors que vous avez l'impression que je ne suis pas là, et que tout s'écroule autour de toi, et que je semble être absent, je veux te rappeler, non, je suis là. L'image qu'il va prendre, c'est un peu comme les anges qui se promènent partout, qui rapportent au roi ce qui se passe. Dieu n'a pas vraiment besoin de ça, il est omniscient, il sait tout, c'est propre à lui, c'est intrinsèque, c'est un attribut qu'il a, mais il veut, par cette vision-là, rappeler à ses enfants que, non, vois-tu, je vois ton découragement et je suis au contrôle de la situation. Et même quand tu regardes ta vie, même si tout est en train de, c'est des débris, ça s'écroule, je veux te rappeler que je sais exactement ce qui se passe et je veux te donner une parole de consolation. Je sais ce que tu vis en ce moment et je suis au contrôle. Vois-tu, l'omniscience de Dieu signifie qu'il voit tout le mal, il voit tes découragements. Mais ça ne s'arrête pas là. Il voit aussi tes bonnes choses. Dieu voit tout le bien. Ça veut dire que Dieu voit ton obéissance. Il voit ton service, tous les services et les sacrifices que tu peux faire. Il voit ta générosité. Il le voit. Il ne voit pas juste quand tu succombes à la tentation. Tu sais, des fois, la tentation, tu es là, puis tu es tenté. Et des fois, tu luttes, bon sang, tu luttes et tu luttes, puis finalement, tu as la victoire. Ça a été dur, tu en as arraché, mais tu as eu la victoire. Sais-tu quoi? Dieu voit ça aussi. Il ne voit pas juste quand tu tombes dans la tentation, il voit quand tu résistes à la tentation. Amen? Moi, ça m'encourage. Non seulement ça, il ne voit pas juste quand tu es avare, puis tu penses à toi. Non, il voit aussi quand tu es généreux. Il le voit, ça aussi. Il voit pas juste quand tu es paresseux, puis tu veux rien faire, puis tu fais le pas. Non, il voit aussi quand tu fais quelque chose. Quand tu t'impliques, tu te mouilles. Il le voit. Par exemple, dans Matthieu 6, Dieu dit, il dit, sais-tu, quand tu vas prier en secret, personne ne te voit là. Je te vois, je suis là avec toi, puis je vais te récompenser pour ça. Dieu est précis. Quand tu jeûnes, personne ne le sait. Je vois ça. Je le vois. Puis sais-tu quoi? Je vais te récompenser pour ça. Quand tu donnes à l'offrande, les gens ne savent pas ce que tu mets dans l'enveloppe, personne ne le sait. Mais sais-tu quoi? Moi, je le vois, je le sais. Que tu as fait un sacrifice cette semaine, tu as donné. Je le sais quand tu donnes. Et c'est pour ça que Matthieu 6, Jésus va dire dans Matthieu 6, il va dire, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il va te le rendre. Alors, il voit tout. Il voit le mal, il voit ton découragement, mais il voit aussi ton bien. Il voit le bien que tu fais. Et ce que ça laisse entendre, c'est que Dieu, que seul Dieu peut vraiment savoir tout ce que l'on fait pour lui, dans les moindres détails. C'est intéressant, Paul est en train d'écrire la lettre aux Éphésiens. Imaginez comment les membres devaient se sentir lorsque Paul dit, en passant, il vient de tout énumérer, là, 8 choses là, que Dieu a faites, puis nous a gâtés, nous a bénis et tout ça. Là. Puis après ça, il dit, ah, en passant, Moi, je vais vous dire que j'arrête pas de remercier le Seigneur pour vous autres. Là. Vous aimez Jésus, vous aimez l'Église. Les deux choses les plus importantes, aimer Jésus et son Église. Il dit, moi, je tiens, c'est ça qu'il dit, Paul. Puis il dit, je tiens à vous dire que j'arrête pas de remercier Dieu constamment. Je suis en action de grâce pour Dieu pour comment vous aimez Jésus et comment vous aimez l'Église. C'est ça qu'il fait. Imagine-toi donc si Paul venait ici, te regardait dans les yeux, là, directement dans les yeux. Là. Il dit, sais-tu quoi? Il dit, j'apprécie ce que tu fais. Hey, j'apprécie comment tu aimes Jésus. Bon sang, j'apprécie comment tu aimes ton Église, comment tu t'impliques à l'école du dimanche. Tu es impliqué ici et là, dans l'Église, tu vas dans les groupes maison. Hey, tu sais quoi? Je veux que tu saches, j'apprécie. Je remercie Dieu pour ton implication, pour ton amour, pour l'Église, pour Jésus, comment tu aimes. Deux choses. Hey. Avez-vous remarqué comment nous autres, les chrétiens, on a de la misère à accepter ça? Que quelqu'un vient dire, sais-tu, moi j'apprécie ce que tu fais. Tu sais, quelqu'un vient te voir, je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Tu vas voir quelqu'un et tu dis, bon sang, hey, je tiens tellement à te remercier pour ce que tu as fait tantôt, là, c'est super. Hey, hey! Merci Seigneur! Merci Seigneur, là. Donne gloire à Dieu, pas à moi. Et je comprends ce que la personne a peur. La personne a peur, elle veut donner la gloire à Dieu, et je comprends ça. Mais sais-tu quoi? Tu peux faire les deux. Tu peux glorifier Dieu puis remercier le serviteur. C'est correct, ça. C'est pas la gloire que tu donnes, c'est que tu veux montrer ton appréciation. Tu témoignes que tu apprécies ce que la personne a fait. Parce que là, sans ça, la personne vient te voir, puis veut te remercier pour ce que tu as fait, puis elle se retourne d'abord, puis elle vient de recevoir un reproche. Alors qu'elle voulait te témoigner son appréciation, elle quitte avec un reproche. Je vais te dire une affaire, sais-tu quoi? Ou peut-être c'est nous autres qui faisons ça. Peut-être que c'est nous où on fait ça, nous autres. On ne montre pas notre appréciation, parce qu'on ne veut pas donner la gloire à personne. Non, donne la gloire à Dieu, mais montre ton appréciation au serviteur que Dieu s'est servi. C'est correct, ça. Tu remercies la personne. Il n'y a pas de problème là, c'est correct, tu peux faire les deux. Pas de mal, tu as le droit. Et fais-les. Il y a des gens qui passent par des années à servir Dieu. Personne ne leur dit, « Hey, moi, merci pour ce que tu fais. Dieu se sert de toi. » Jamais, parce que, « Hey, il faut donner la gloire à Dieu. » Non, 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 non. C'est correct, ça. La gloire va à Dieu. Mais tu veux dire merci. Pour ça, moi, j'aime applaudir. J'aime applaudir, parce qu'il y a des gens qui pensent que quand tu applaudis, tu donnes la gloire à personne. Pas du tout. Sais-tu ce que ça veut dire, applaudir? Ça va dans le dictionnaire. Multidictionnaire. C'est pas Normand Joseph qui l'a dit, là. C'est pas « il est écrit ». Normand Joseph a dit, non, non, c'est « il est écrit », multidictionnaire. Le dictionnaire a dit ceci. Et voici comment il définit les applaudissements. Action de battre des mains en témoignage d'approbation. J'approuve. Quand un chant de louange, tu viens glorifier Dieu, tu viens dire « ah, Dieu, t'es bon », pis tout. Applaudis parce que t'es en train de dire « Hey, j'approuve! » C'est le nouveau « Amen ». « Amen », c'est hébreu. Le nouveau « Amen » 2013, presque 2014, c'est applaudi. T'es en train de dire « Hey, oui, yes, yes! » Tu sais, quand les Canadiens viennent de Montréal, là, puis font un but contre les sénateurs. Moi, je viens de Montréal, les gars. Yes! T'applaudis! Pourquoi? T'approuves! T'es content! Yes! Bon coup! Oui! Ils n'étaient pas nombreux, hein? OK, d'abord, les sénateurs, quand ils font un but, oui! Pas plus? OK, bon. Vous êtes en crise d'identité, c'est ça? Vous n'êtes pas sûr pour quelle équipe? Hein? On montre notre approbation. C'est correct, ça. On y va. Ne jamais montrer notre reconnaissance, c'est décourageant, ça. C'est décourageant. Mais Paul commence sa lettre en montrant son appréciation envers Dieu en premier. Et c'est vraiment beau de voir, hein, parce que si vous n'étiez pas là la semaine dernière, la dernière fois qu'on a regardé ce passage-là, c'est vraiment beau de voir la connexion, la transition qui se fait, parce que Paul, là, regarde ce qu'il est en train de faire. Paul, dans un sens, vient de montrer son appréciation envers Dieu le Père. Il a commencé avec le Père. Après ça, Dieu le Fils. Puis il termine avec Dieu le Saint-Esprit. Puis après ça, il fait un shift, un demi-tour, puis il dit, « Hey, en passant, moi j'apprécie vraiment, vraiment vous autres. Hey, moi je vous apprécie, vous autres. » Tout le monde devrait se sentir tellement apprécié dans l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que vous approuvez ça? Oui! Ça, c'est la version 2013. Absolument! On approuve ça, oui! Parce que Jésus nous apprécie. Alors, ça a tout un impact sur nous autres de savoir que Dieu nous apprécie. Parce que même si personne autour te témoigne de son appréciation, sais-tu quoi? Rappelle-toi que Jésus t'apprécie. Ça a tout un impact. Premièrement, sais-tu qu'est-ce qui arrive quand tu te laisses ton cœur te remplir de cette vérité-là? Hey, Dieu m'apprécie. Ça a un impact, premièrement, sur tes critiques. Ça change nos critiques en prière. Tu sais comment est-ce qu'on est, hein? Vous savez comment est-ce qu'on est? Regarde tout ce que je fais. Personne ne me l'apprécie. Hey, s'ils pensent que moi servir le Seigneur dans cette église-là, après ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, ou etc., est-ce que vous êtes comme ça ou est-ce que je suis seul? Est-ce que. Hein? Je suis seul, hein? Oui, c'est vrai. J'étais certain qu'il y en avait un qui était pour la sortie. Je dis, hey, hein? Tu sais, parce qu'on est, comme ça, dans le fond de nous autres, on est là, puis on dit, bon sang, ça fait tant d'années que je cherche le Seigneur ici, personne ne me dit merci, etc., puis là, on arrête. Puis on dit, écoute, hey, si tu penses, on va faire une autre affaire dans cette église-là, là. Hey, mon ami. Mais sournoisement, nos plaintes, nos murmures vont créer en nous autres un esprit négatif, amer, puis on devient critique. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Mais regarde ce que Paul fait, il prie. La critique, c'est parler de quelqu'un aux autres. La prière, c'est de parler de quelqu'un à Dieu. Paul prie pour les autres. Ah, s'il y en avait un qui avait le droit, qui était certainement en droit de critiquer, puis ça n'allait vraiment pas bien son affaire, c'était vraiment l'apôtre Paul. Là. Pendant qu'il est en train d'écrire ça, il est en prison. Là. Imagine-toi, il est en prison pourquoi? Pour avoir servi le Seigneur. Il aurait même pu dire franchement. Non! Mais il sait, au fond de son cœur, que Jésus l'apprécie. Il y a une conviction dans son cœur que quoi qu'il arrive, Jésus l'apprécie. Il pourrait certainement critiquer. Il ne l'a pas eu facile. Il avait travaillé fort, il a fait beaucoup de sacrifices. Mais sais-tu quoi, dans le fond de son cœur, il sait que Jésus apprécie tout ce qu'il a fait. Il le sait dans son cœur. Il a vécu plusieurs situations difficiles. Il connaissait la solitude, il l'a dit dans un passage. Une des choses les plus difficiles, vous savez, c'est la solitude. Paul a vécu la solitude. Il savait ce que c'était, c'était dur. En plus de ses nombreux voyages, écoutez, il n'y avait pas de voiture dans ce temps-là. Il voyageait 25 km tous les jours, il était battu, il a fait naufrage, il n'y avait pas d'argent. Plusieurs fois, il est arrivé qu'il n'y avait pas un sou, il n'y avait rien. Il était abandonné, il a été laissé pour mort, il a été perdu dans la mer. Puis là, il écrit en prison. Mais ce qui va l'aider, ce qui va l'encourager, c'est de savoir que Jésus l'apprécie, puis apprécie ce qu'il fait. Il sait comment Jésus apprécie sa vie, son service, tous les sacrifices qu'il a faits pour le Seigneur. Puis vois-tu, il n'y a peut-être personne en ce moment, dans ton entourage, qui te montre son appréciation. Mais tu as besoin de te rappeler dans ton cœur que Jésus, lui, t'apprécie. Il sait exactement ce que tu fais pour lui. Et c'est ce qui permettait à Paul de prier au lieu d'avoir un esprit amer et critique, malgré tous les abandons qu'il a eu, les coups de fouet qu'il a eu. Il a été jeté en prison, au cachot. Malgré ça, il savait le fond de son cœur qu'il était apprécié. Ça fait une différence. La Bible dit que murmurer contre les autres, c'est péché. On lit dans Jacques 5, verset 9, ça dit ceci. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. En d'autres mots, lui, c'est lui qui est le juge. Et le mot ici pour plaindre est intéressant. C'est le mot comme gémir. D'ailleurs, la version, la Tob, va dire ceci. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres. C'est comme, c'est un soupir. C'est le mot soupir. En grec, l'idée de... Oh, les introvertis, ils ne disent rien. Là. Mais en dedans, c'est... Oh, hein? Les extros, ça paraît. Les intros, ça paraît pas. Là. Il y a poker face. Poker face, hein? Mais quand même, le cœur est là pareil. Hein? Murmure, les plaintes. Oh. On gémit. Mais ce qui va nous aider à vaincre nos plaintes et nos critiques, c'est de savoir que Jésus a souffert pour nous autres, que le Seigneur nous aime, que le Seigneur est généreux envers nous autres et tout ce qu'il a fait. Puis il voit à chaque fois, il te voit obéir, il te voit donner, il voit tes sacrifices, il le voit. Savoir qu'il nous aime, qu'il s'occupe de nous autres, va nous permettre de pouvoir prier même pour le bien-être des autres. Alors, savoir que Dieu nous apprécie change nos critiques en prière. Deuxièmement, savoir que Dieu nous apprécie change l'esprit compétitif, change la compétition en célébration. Quand on ne se sent pas apprécié, on a tendance, on est tenté de compétitionner avec les autres. Maintenant, il y a une saine compétition, c'est sûr, tu es Canadien, tout ça. Il y a une saine compétition, c'est correct, tu veux devenir meilleur, là, tu cherches l'excellence, et tout ça. C'est correct ça. Mais il y a une compétition qui est malsaine, où tu ne te réjouis pas du succès des autres. Ou tu sais, quelqu'un dit « Hey, tu sais pas quoi, j'ai eu ici, j'ai ça, et Dieu me bénit. » Puis dans le fond de ton cœur, tu es là. T'sais, c'est comme, il y a quelque chose de malsain qui est là dans ton cœur. Mais le fait de savoir que le Seigneur t'apprécie, il voit tout, il sait ce que tu fais. Peut-être que personne d'autre le voit en ce moment parce que peut-être un travail, il y a peut-être quelque chose que tu fais qui est comme dans l'ombre. On le remarque moins, on l'apprécie moins, on ne témoigne pas de ton appréciation. Mais sais-tu quoi? Le Seigneur voit tout ça. Tu es apprécié, il le sait. Paul célébrait la victoire des frères et sœurs. Il célébrait le succès des autres. Il dit au verset 15 et 16, « Après avoir entendu parler de votre foi, moi j'ai entendu parler de vous autres, après avoir entendu parler de votre foi en Jésus, puis votre amour pour les croyants, bon saint, je remercie le Seigneur. Je célébrais votre succès, votre victoire, je célébrais comment vous vous consacrez au Seigneur. » Savoir que Dieu nous apprécie, change nos critiques en prière, change la compétition en célébration. Ça change la vantardise en encouragement. Une personne qui manque d'appréciation peut essayer d'aller en chercher en se vantant un peu, avoir raconté un peu tout ce qu'elle fait, etc. Vous remarquez, des fois, une personne va comme un peu étaler tout ce qu'elle fait pour le Seigneur parce qu'elle espère, au fond, recevoir un peu d'appréciation. Mais ce que ça fait souvent, c'est le contraire, c'est l'effet contraire. On se sent un petit peu repoussé, gêné, une gêne, il y a un mal à l'aise qui se passe à ce moment-là. Parce que ce que la personne recherche, au fond, c'est qu'elle espère, en relatant un peu tout ce qu'elle fait, c'est de recevoir un peu d'appréciation. Mais il faut se rappeler que le Seigneur, lui, sait tout ce que tu fais. Le Seigneur sait ce que tu fais. Paul encourageait les autres. Il n'étalait pas ce qu'il faisait. Il ne cherchait pas l'appréciation des autres. Parce qu'il se savait apprécié par le Seigneur lui-même. Et ça lui permettait d'encourager les autres, à célébrer les victoires, à souligner les victoires. Ça lui permettait de se réjouir avec les autres et les encourager aussi. Les gens qui savent que Dieu les apprécie vont prier différemment, la prière va être différente. Ils savent et soulignent l'œuvre de Dieu dans la vie des autres. Ils vont prier aussi également pour les autres. C'est pour ça que quelqu'un a suggéré que la moitié de la lettre aux Éphésiens, dans le fond, c'est des prières, d'une façon ou d'une autre. Legan Duncan, qui a fait une série sur la lettre aux Éphésiens, a fait l'observation suivante. Il dit, Paul dit qu'il prie pour eux, il donne des requêtes pour eux, il invite à la prière, il écrit même ses prières pour eux, et pour vous et pour nous. En d'autres mots, ça parle de prière tout le temps, ici, dans cette lettre. Une courte lettre, pas grande, là, c'est pas long. Puis un exemple, c'est ce passage qu'on voit justement, verset 15 à 23. Paul prie afin que ces chrétiens-là connaissent Dieu davantage. Ils le connaissaient, ils ont été bien enseignés. Écoutez, ils connaissaient Dieu, c'était des chrétiens. Puis ils ont été enseignés par Paul, Timothée, Luc, Jean. Ils ont eu tout un ministère, ils ont eu un bon enseignement. Malgré cela, sa prière, c'est qu'ils connaissent Dieu davantage, plus intimement, dans le fond. Encore plus intimement qu'ils grandissent dans leur connaissance. En Jésus, tu es apprécié. Tu es d'accord avec ça? En Jésus, tu es apprécié. Alors, on veut s'inspirer maintenant, savoir que nous sommes appréciés de Dieu à notre tour. On veut agir comme Paul. On veut montrer notre appréciation comme Paul l'a fait. Pourquoi pas prendre un temps cette semaine pour montrer votre appréciation à des gens? Pensez à certaines personnes qui sont dans votre entourage que vous voulez dire, « Hey, je veux te dire merci. » Merci, André, de t'occuper du stationnement avec toute ton équipe. Là. Est-ce qu'il y a André? Est-ce qu'il y a quelque part, André? Tu es là. Merci, André. Hein? Tout, fidèlement. Hey, je veux te dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui est allé à l'église de Matt Chandler. Ils sont quoi? 11 000, je pense. Il y a différents campus et tout ça. Là. Puis le frère me dit que le service dans le stationnement là-bas était pareil comme le nôtre. 11 000 personnes. Donc, chapeau, André. Une main d'appréciation avec son équipe. Merci, André. Tu fais ça comme les grands, là. OK? Tu fais ça comme les grands. Alors, gloire à Dieu. Prenez le temps cette semaine de dire merci à quelqu'un. Peut-être votre conjoint. Peut-être un collègue à votre travail. Prenez le temps de vous arrêter, là, de dire, OK, à qui est-ce que je pourrais aller témoigner mon appréciation? Hein? On va s'inspirer de l'exemple de Paul. Parce que vous savez quoi? En Jésus, nous sommes apprécié. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces beaux témoignages de l'apôtre Paul. Quel exemple pour nous. Et nous le prenons pour nous, Seigneur. Nous le prenons comme un message qui vient du Saint-Esprit dans nos cœurs, qui nous dit, sais-tu, je sais ce que tu fais dans l'ombre. Je sais quand tu résistes à la tentation. Je sais quand tu donnes, quand tu fais des sacrifices et quand tu me sers. Je le sais. Merci, Seigneur. Donne-nous, par ton esprit, de nous le rappeler afin que nos plaintes, nos critiques se changent en prière, qu'on célèbre aussi les victoires des autres, et lorsqu'ils réussissent, ils grandissent. Merci Seigneur. Et aussi, nous voulons devenir des encourageurs, des gens qui encouragent les autres. Au nom de Jésus. Amen.